Et c'est a cappella que notre rappeur à nous, Thomas Baumgartner, ouais, va nous servir sa revue de presse avec une question pour débuter. Existe-t-il un marché mondial des PDG, Thomas ?
Oui, bonjour Guillaume, bonjour à tous. C'est une question qui est posée par Lacroix en titre de sa page 4, une question intéressante parce que l'éventualité actuellement évoquée d'une limitation des rémunérations des PDG risquerait, selon les milieux patronaux, de priver les entreprises françaises des meilleurs talents, je cite, si l'on ne s'alignait pas sur certaines pratiques internationales. Lacroix met face à face deux avis. D'une part, il y a celui de Jérôme Chauvin, délégué général adjoint de Business Europe, une organisation patronale européenne. Dans son organisation, dit-il, nous appelons à faire attention à ce que d'éventuelles nouvelles mesures de régulation ne nuisent pas à l'attractivité d'un pays et à la capacité d'une entreprise européenne à attirer chez elle des dirigeants compétents. Attention, répète-t-il, à ne pas tirer vers le bas le niveau de compétences des personnes susceptibles de venir travailler dans ces entreprises. On a donc là un représentant du patronat qui nous dit que pour obtenir du bon boulot, il faut le payer correctement. Face à lui, Lacroix ne met pas un représentant syndical, mais un consultant. Loïc Dessin est directeur général de Proxinvest, un cabinet de conseil aux investisseurs. Le marché mondial, où l'on disputerait les talents des meilleurs PDG à coups de millions, n'existe pas, dit-il en substance. Rien ne permet de soutenir cette thèse. Les dirigeants viennent dans l'immense majorité du même pays que leur entreprise. Bien sûr, concède-t-il, il existe des exceptions notables. Mais la règle est que les entreprises américaines sont dirigées par des Américains, les entreprises allemandes par des Allemands et les entreprises françaises par des Français. En réalité, on ne s'arrache pas vraiment les dirigeants français, poursuit-il. Et je ne pense pas qu'une limitation des rémunérations conduirait à une vague de départs massifs vers l'étranger. Et il remarque, Loïc Dessin, que pour justifier leur rémunération, les dirigeants français se comparent toujours avec les Américains ou les Allemands, jamais avec ceux qui sont moins bien payés, comme les Japonais par exemple. C'est ce qu'on apprend. Ce qui pousse les rémunérations vers les sommets, dit-il, c'est surtout l'idée que plus un patron est payé, meilleur il sera. Voilà ce qu'analyse ce directeur général de ce cabinet de conseil aux investisseurs. Or, quand une entreprise choisit un nouveau dirigeant, elle est obligée de dire qu'elle a pris le meilleur et donc de le rémunérer encore plus que les concurrents afin de prouver qu'il est excellent. Dans ce processus de recrutement, on ne choisit pas le moins cher parmi les excellents candidats. On veut le meilleur et donc on le paye ce qu'il juge mérité sans vraiment s'interroger sur le niveau de rémunération. Existe-t-il un marché mondial des PDG ? C'est donc une confrontation des points de vue à lire dans Lacroix ce matin.
Et un patron français dans une structure française. C'est le cas, par exemple, du patron de la Fédération française de tennis.
C'est Jean Gachassin qui est au centre d'un long article de Jean-Yves Guérin dans le Figaro ce matin, alors que le tournoi de Roland-Garros commence après-demain dimanche et que le tirage au sort pour en déterminer le tableau a lieu tout à l'heure à 11h15. L'ambiance est plombée à la FFT, écrit Jean-Yves Guérin. Les salariés de la Fédération voient voler les scuds au-dessus de leur tête et se demandent ce qui va leur arriver, lui a-t-on rapporté. Le président de la FFT, Jean Gachassin, donc, est accusé d'avoir organisé à son profit personnel un trafic de billets pour Roland-Garros. On lui reproche aussi d'avoir rencontré un cadre de l'entreprise Vinci en pleine procédure d'appel d'offres pour agrandir le stade de Roland-Garros, ce qui est un procédé interdit, nous rappelle-t-on. Le patron de la FFT est soupçonné d'avoir cédé à prix coûtant 600 billets pour Roland-Garros en 2010 et 2011 à Midi Olympique Voyage, une société dirigée par un de ses amis, des places qui auraient dû revenir à des licenciés ou à des partenaires. En proposant des packages VIP avec hôtels, restaurants, etc., l'agence en question les revendait 5 fois plus cher. En contrepartie, Jean Gachassin, qui vient du monde du rugby, était invité à des matchs du tournoi des 6 nations à l'étranger, tout frais payé. Nous expliquons dans l'article du Figaro. Selon les informations du journal, par ailleurs, le président de la FFT est aussi soupçonné d'avoir vendu lors de chaque quinzaine de Roland-Garros quelques places à une marque de vêtements qu'il habillait en contrepartie. « Je n'ai vraiment rien à me reprocher, si ce n'est d'avoir été trop gentil avec mes amis du rugby », expliquait Jean Gachassin le 8 mai dans une interview citée par Jean-Yves Guérin. « Je leur ai donné quelques places payantes, peut-être un peu trop ». Une enquête préliminaire est ouverte depuis le 19 mars sur un système de revente occulte des billets et sur les conditions d'attribution du marché de l'agrandissement du stade de Roland-Garros. Dans ce cadre, le 3 mai, une vingtaine de policiers ont fait une perquisition au siège de la FFT, nous rappelle-t-on dans l'article du Figaro. Une opération et des révélations qui ont lieu dans un climat plus que tendu. Déjà en février, dit-on dans l'article, le directeur général de la Fédération française de tennis et directeur du tournoi de Roland-Garros a été licencié en quelques minutes et actuellement deux membres du comité directeur de la FFT ainsi qu'un outsider hors système, se livre une bataille féroce pour succéder à Jean Gachassin lors des élections prévues en février 2017. Et dire que ce dernier avait été élu à la tête de la Fédération de tennis pour en finir avec l'ère de l'affairisme incarné par son prédécesseur, condamné en 2009 pour prise illégale d'intérêt, précise le journaliste du Figaro. Le Figaro qui fait un petit encart dans ses pages économie, un petit encart sur un conflit qui se poursuit entre Google, le géant Google, et la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Au cœur de ce conflit, la question du droit à l'oubli, un droit qui suppose suppose que tout citoyen européen peut réclamer le déréférencement d'un contenu mettant à mal sa vie privée, donc sur le moteur de recherche Google, un droit reconnu par la justice européenne en mai 2014. La CNIL réclame l'extension de ce droit au monde entier afin d'assurer le respect total de ce droit sans possibilité de contournement, nous dit-on. En mars, la CNIL a déjà infligé une amende de 100 000 euros à Google qui assure qu'il réglera l'amende, mais l'entreprise dépose une requête au Conseil d'État pour contester les ordres de la CNIL. Nous nous interrogeons sur le pouvoir de la CNIL française d'étendre sa juridiction au-delà des frontières de son pays, explique le directeur juridique de Google en Europe. Cette décision pourrait entraîner une situation où le standard le plus restrictif se trouve appliqué à tous les internautes du monde. Réponse du Conseil d'État dans plusieurs mois. Droit à l'oubli, droit à l'image. Aujourd'hui, les deux sont proches, bien sûr. Il est question du droit à l'image dans Libération ce matin dans un entretien avec Joëlle Verbrugge, qui est photographe et avocate, et qui répond à Laurent Drillon. Le point de départ de la discussion, c'est un conflit qui oppose les parents d'une victime de l'attentat du Bataclan le 13 novembre et le magazine VSD, qui a publié sa photo le montrant agonisant aux abords de la salle de spectacle. La famille a porté plainte pour atteinte à la dignité de la victime. Le tribunal doit se prononcer aujourd'hui sur la question. C'est une épineuse question de droit, dit Libé. Il y a d'un côté la liberté d'informer, effectivement, confirme Joëlle Verbrugge, et de l'autre le droit à l'image, qui fait partie du droit au respect de la vie privée. Le droit à l'image, dit-elle, comme le droit à la dignité, sont des droits dits de la personnalité. Ils naissent avec la personne et meurent avec elle. La famille du défunt s'est appuyée sur la loi Guigou de 2000 qui stipule que montrer les circonstances d'un crime ou d'un délit est puni d'une amende si ça porte atteinte à la dignité de la victime. Et elle poursuit, et Joëlle Verbrugge, c'est une loi qui est faite pour protéger les vivants. Seule la personne qui est photographiée peut porter plainte. Si elle décède, la famille ne peut que recourir à d'autres moyens juridiques. Le plus efficace est d'invoquer le préjudice d'affliction, l'idée que les proches voient leur douleur aggravée et ravivée par la vue d'une photographie dégradante. Il est vrai que le code pénal protège la mémoire des défunts, mais la loi concerne les dépouilles, les sépultures, les monuments aux morts, pas leur image. Joëlle Verbrugge affirme aussi qu'en la matière, nous sommes dans une période de transition. La rapidité et la facilité avec lesquelles sont transmises les photos aujourd'hui ont un réel impact, estime-t-elle. Avant même que l'événement soit terminé, l'image est relayée partout et le mal est fait. On peut imaginer que les dommages d'intérêt vont augmenter pour ces raisons, mais surtout, il se pourrait qu'il y ait tellement de demandes que la jurisprudence assaillie de procédures et incapable de tout traiter devienne moins sévère. La jurisprudence évolue lentement, plus lentement que les mœurs ou que la technologie, dit-elle, et le risque est que le droit à l'image cède du terrain devant le droit à l'information. C'est donc à lire dans Libération ce matin. Bonne journée.